Bien bonjour, donc je me présente Philippe Dubois, je suis le président de l'association Amoursapin.com. Voilà, je suis là pour vous parler d'un projet qui, bien évidemment, vous le comprendrez, me tient plus particulièrement à cœur, comme celui de beaucoup de personnes. Vous le comprendrez également certainement à travers les slides que je vais vous présenter. En tant que projet, voilà, pour la création d'un musée national des jeux vidéo, c'est un nom générique qu'on donne à ce projet. Vous pouvez également le voir comme un institut des cultures numériques. Il possède beaucoup de noms en interne, mais l'intérêt, c'est que de plus en plus de personnes y croient et que le potentiel que cela serait réalise en France est potentiellement de plus en plus élevé. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'association Amoursapin.com que je représente, que j'ai créée donc, en 2003. Je lis plus ou moins, c'est le statut officiel. Voilà, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour principale mission de préserver le patrimoine informatique et vidéoludique. Donc, qu'est-ce que le patrimoine informatique et vidéoludique ou patrimoine numérique? C'est tous les objets et toutes les connaissances liées à l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. Et puis, par essence, vous pouvez également ajouter tout ce qui est multimédia, tout ce qui est lié au DVD, au cinéma, tout ce qui utilise des puces électroniques et finalement puis numériques, fait partie de notre mission. Elle prépare donc, dans ce sens, un projet de musée national dédié donc, que l'on dénomme de manière très grand public, si vous voulez bien m'excuser, le musée national des jeux vidéo, puisque nous avons dû adopter finalement un petit peu à la va-vite courant 2009, pour ceux qui connaissent l'histoire avec le fameux musée des jeux vidéo de l'Arche, musée de jeux vidéo de l'Arche de la Défense, un nom pour contrecarrer cette initiative privée et commerciale. Notre savoir-faire connu, nouveau d'être fréquemment sollicité par les médias, les institutions nationales, voire internationales, c'est d'autant plus vrai que je vais vous présenter un petit peu l'état de l'art, de l'avancée de notre projet, au fur et à mesure que nous avançons, que nous nous présentons à des politiques, à des institutionnels, à des privés également, à des industriels. L'association Amoursapin.com dans les faits, donc que nous possédons actuellement, et ça c'est de manière très récente, hein, parce que c'est depuis ce début d'année plus de 200 membres, bien évidemment ce n'est pas 200 membres actifs, vous vous doutez bien, ce sont en tout cas 200 membres qui croient dur comme fer en notre projet. Et parmi ces membres, donc j'ai tenu à en mettre en avant, ce que l'on dénomme en interne des membres d'honneur, ce sont parmi les plus grands créateurs de jeux vidéo dans le monde. Donc nous avons Philippe Lerich, qui est le président de notre comité de soutien pour le Musée National des Jeux Vidéo. Nous avons récemment M. Frédéric Rénal, qui travaille pas très loin, à Montpellier. M. Alexei Pachinov, que j'ai pu rencontrer grâce à ma belle famille. Il y a des très gros hasards dans la vie. Alexei Pachinov, qui est le créateur de Tetris, si vous ne connaissez pas cette personne. Et de plus en plus de grandes personnalités en France ou dans le monde, liés essentiellement ou majoritairement aux jeux vidéo, sont invités à nous soutenir et à devenir membres d'honneur. Je puis vous donner certainement comme exemple le nom de Hideo Kojima, qui devrait certainement devenir membre d'honneur de Amoursapin.com très bientôt. Nous avons, grâce à l'appui de ces 200 membres, la dernière condition qui nous permettait, grâce au soutien actif du ministère de la Culture, de pouvoir déposer un dossier qui est très important pour nous, pour une association de 1901, qui est le dossier de reconnaissance d'utilité publique, qui ouvre beaucoup d'opportunités, qui ouvre beaucoup de choses pour une association de 1901. Autant vous avez 400 000 à 500 000 associations de 1901 déclarées en France, autant vous en avez 1680 qui sont déclarées reconnues d'utilité publique. Bien évidemment, c'est Amoursapin.com recueille cette reconnaissance, chose plus ou moins promise par le ministère de la Culture. Les choses devraient beaucoup s'améliorer pour nous, notamment en termes d'obtention de locaux pérennes pour pouvoir préserver nos collections. Et finalement, nous travaillons régulièrement, de plus en plus régulièrement, ce qui est très bénéfique, bien sûr, pour notre sujet, avec notamment le ministère de la Culture. Je l'ai déjà cité plusieurs fois, je vais le reciter encore de nombreuses fois, tant leur implication est active et soutenue, et également d'autres institutions nationales qui comptent sur le domaine, crossover entre le cinéma, les cultures numériques et le jeu vidéo, qui sont notamment la BNF et le CNC. Nous possédons, entre autres forces, ce n'est pas la seule, mais en tant que grande force reconnue mondialement, une des plus grandes collections d'Europe, qui est estimée, c'est une estimation, puisque un inventaire prend certainement de longs mois à être réalisé, voire plusieurs années, En tout cas, cette estimation porte notre collection à minimum 30 000 pièces. 30 000 pièces, j'entends par là, pas simplement, évidemment, des machines, des consoles, des ordinateurs, des choses comme ça, mais tout document lié à l'histoire de l'informatique, à l'histoire des jeux vidéo, à leurs usages et à tout ce qui est dérivé numérique. Donc on peut compter dans ces collections des dizaines de milliers de logiciels, des dizaines de milliers de périphériques, de PLV, de magazines, de bouquins, tout ce que vous pouvez bien imaginer de lié, au moins dans un contexte historique, à l'histoire de l'informatique, de la micro-informatique et à l'histoire des jeux vidéo. Nous avons également, je vous parlais d'autres richesses, pas simplement celles de la collection, même si c'est un de nos jokers les plus forts. Nous possédons certainement, et puis également en interne, de manière reconnue, parmi les plus grands experts sur le point de vue national, voire international pour certains d'entre eux, en histoire d'informatique et des jeux vidéo. Nous n'avons pas le dieu vivant de l'histoire d'informatique, nous n'avons certainement pas le dieu vivant de l'histoire des jeux vidéo, et de toute façon, il n'y a pas de casquette attitrée par un diplôme qui stipule que telle personne en France est le référent en histoire de l'informatique ou le référent en histoire des jeux vidéo. Tout le monde est autodidacte. Il n'empêche que, pourvu dans nos équipes de journalistes, de spécialistes du patrimoine, de spécialistes des technologies, notamment des sciences numériques, nous pouvons répondre et nous sommes sollicités très régulièrement par l'ensemble des médias, l'ensemble des institutions publiques ou privées pour aborder un sujet toujours lié à l'histoire de l'informatique, des jeux vidéo et de leurs usages. Et finalement, nous avons derrière nous, en tant qu'atout, certainement le statut d'association la plus active en Europe. C'est difficile à vérifier, mais je pense que c'est le cas, puisque nous avons déjà réalisé ou participé à plus de 80 expositions grand public depuis notre création en 2003, création officielle, j'entends, en 2003, pour expliquer donc au grand public la nécessité de préserver le patrimoine numérique, qu'est-ce que le patrimoine numérique et quel est le travail de l'association réalisé pour cela. Quand j'entends 80 expositions, on peut certainement doubler ce chiffre avec tous les projets d'écriture, de rédactionnel, journalistique, liés à notre image d'experts nationaux, finalement, du patrimoine numérique, avec d'innombrables médias qui viennent nous voir, les chaînes nationales, France 2, M6, Arte, les plus grands journaux, Le Monde, etc., viennent régulièrement nous consulter, même si ça ne donne pas forcément lieu à une prestation ou quoi que ce soit, en tout cas, nous contactent du moment voilà, qu'ils ont une question liée au patrimoine numérique. Nous avons réalisé une petite vidéo en interne, qui date un peu, elle a été réalisée dans nos locaux en 2007, mais qui explique assez bien finalement notre démarche de base qui est le recollement des vieilles machines, la restauration des vieilles machines et la préservation des vieilles machines. Voilà, qu'est-ce que l'on a vu sur cette vidéo, vraiment en résumé, je pense qu'elle est assez explicite. Nous avons des dons réguliers qui arrivent de particuliers, d'industrie, quels que soient les moyens. Ces dons figurent généralement des micro-ordinateurs, quel que soit le matériel finalement, toujours accès numérique bien évidemment. Nous recollons ce matériel-là, nous allons le restaurer, nous allons le tester, nous allons éventuellement le réparer et nous lui destinons plusieurs usages. Donc il faut savoir que chez Evo5.com, c'est particulièrement pertinent, je pense, en termes de démarche, et important pour la compréhension de notre but final. Nous avons plusieurs collections en interne, donc dans les fameuses 30 000 pièces plus que je citais, nous avons une collection de réserve qui est celle destinée au futur musée national, qui correspond finalement en termes d'image à ce que vous avez vu à la fin du film, où la personne qui a photographié et nettoyé cette machine, qui est maintenant restaurée et qui va être préservée, on l'espère, pour de très nombreuses années, va le poser sur un étage, une étagère propre, référencée, inventoriée. Et cette machine ne sera ressortie que dans le cadre soit d'une exposition, soit d'une mise en valeur au sein d'un musée national. Voilà, ce sont les collections dites de réserve. Il y a également, puisqu'on parlait notamment d'exposition, les collections dites d'exposition, nécessairement, qui sont des machines triées sur le volet, qui fonctionnent parfaitement, dont nous disposons de plusieurs dizaines d'exemplaires, potentiellement en parfait état de marche. Donc nous pouvons, entre guillemets, user un exemplaire pour le montrer au public et leur permettre de remettre la main sur le dispositif originel et leur faire comprendre quels sont les tenants de l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo grâce à ce biais. Et finalement, il y a une dernière collection, c'est la collection d'études, qui est quelque part certainement la plus majoritaire en nombre de pièces, dans lequel nos experts, nos journalistes, nos chercheurs, nos scientifiques vont aller piocher des informations, vont aller brancher ces machines pour les expérimenter, recueillir des connaissances qui seront soit transcrites sur le site web de l'association, transcrites au travers d'articles publiés dans les médias, etc. Venons-en donc à notre fameux et bien sûr sacro-saint projet du Musée national des jeux vidéo. C'est quelque chose donc qui est très important pour moi puisque je commençais à l'aborder avec les journalistes ici présents. C'est un projet qui a mûri depuis de très nombreuses années dans ma tête. Je ne suis certainement pas le seul, bien évidemment, porteur de cette image, de cette volonté de créer un musée national. Nous sommes très nombreux. Il se trouve que dans ma propre vie, biographie, j'ai, dès 1993, réfléchi, pensé à l'obsolescence des informations, des connaissances liées à l'usage de nos machines, à l'usage de nos ordinateurs, de nos consoles de jeux. Et dès 1993, j'ai senti que si personne ne réagissait, toutes ces connaissances allaient partir à la benne, de même que les machines partent à la benne et continuent de partir à la benne encore de nos jours. Donc immédiatement, j'ai réfléchi à différents moyens, d'une part déjà de coucher ma propre mémoire et finalement la mémoire de mes contemporains, de vous, qui avez, pour beaucoup d'entre vous, déjà utilisé des ordinateurs, des consoles de jeux. Vous avez tous une expérience qui est sensiblement la même ou différente de la mienne. En tout cas, une approche qui mérite d'exister, qui mérite d'être couchée sur le papier et qui mérite d'être véhiculée aux générations futures. Pour leur expliquer, finalement, qu'est-ce qu'était l'informatique dans les années 80, les années 90, dans les années 2000. Qu'est-ce qu'était jouer un jeu vidéo dans les années 80, 90, 2000. Quelles sont les grandes lignes de l'histoire de l'informatique, quelles sont les évolutions qui ont fait que maintenant j'utilise un ordinateur personnel très facilement avec une souris, il dispose d'une capacité de calcul absolument phénoménale, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de fois par rapport à un ordinateur d'antan. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Tout cela doit être décrit et préservé au sein d'un musée national. Donc je commençais à aborder la page avant d'y arriver. Donc, bien évidemment, pourquoi donc, voilà, un musée national dédié au patrimoine numérique, hein, donc j'entends par patrimoine numérique, je l'ai déjà décrit tout à l'heure, tout ce qui est lié nécessairement à l'histoire d'informatique, à l'histoire des jeux vidéo, à nos usages de chacun de ces outils, quels qu'ils soient. Donc c'est la nécessité pour nous, association, et pour beaucoup de gens qui nous suivent, vous le comprendrez, de conserver près de 40 ans d'histoire de nos usages de l'informatique et des jeux vidéo. 40 ans. J'ai pour habitude de faire un parallèle qui est très bien compris. Vous connaissez déjà plus ou moins l'histoire du cinéma. Le cinéma, dès le début des années 1900, entre 1900 et 1930, avec les différentes évolutions qui ont été le passage à la couleur, le passage au parlant, etc., au sonore, eh bien, il y a eu une immense déperdition de toutes les premières bobines de cinéma muet. On a perdu...
Pardon.
On a perdu à peu près, ça me met les larmes aux yeux parce que c'est très personnel. Mais en tout cas, on a perdu, on estime, les plus grands spécialistes, notamment ceux de la cinémathèque française, estiment qu'on a perdu 85% du patrimoine mondial du cinéma muet. Voilà. Ça, c'était dans les années 1930, avant qu'une association se crée, se monte, notamment autour de la personnalité de M. Henri Langlois, et devienne, quelques années plus tard, la Cinémathèque française, qui œuvre bien sûr toujours pour préserver ces fameuses bobines de cinéma. Si on fait un parallèle, vous pouvez imaginer que les premières cartouches, ou les premières disquettes, ou les premières cassettes audio qui contenaient des jeux vidéo sont les mêmes choses que ces fameuses bobines de cinéma. on vit exactement la même aventure. Et on vit exactement, j'ai du mal, on vit exactement le même problème, à savoir que si personne ne fait rien, tout va disparaître. Tout va disparaître parce que on est, comme je dis ici, on est sur un patrimoine culturel et scientifique culturel parce qu'il est reconnu comme un bien culturel. Je parle ici notamment du jeu vidéo, qui a ce statut-là en France depuis de nombreuses années, scientifique notamment grâce à l'informatique, qui est en voie de disparition rapide puisque, de fait de son obsolescence et du remplacement par des technologies plus modernes, eh bien, les gens, vous, nous, moi potentiellement, peut-être en tout cas dans une vie antérieure, avons mis à la benne ou avons jeté du matériel qui méritait d'exister parce qu'il était lié à un usage, à une connaissance qui maintenant doit être préservée impérativement et mise en valeur au sein d'un musée national. Et puis, comme je l'écris ici, parce que l'obsolescence de ces matériels-là, de ces connaissances, va en accélérant. C'est très très grave. Il y a un excellent article d'un scientifique que nous avons rencontré, qui travaille à Paris 6, qui s'appelle donc Franck Laloé, qui a publié un article dans Le Monde, me semble-t-il, c'était l'année dernière, et l'article, en fait, mettait le point sur le fait que nulle part avant dans l'histoire de l'humanité, et là je remonte pas à 40 ans ou 100 ans en arrière, je parle de l'humanité. Depuis que nous existons, jamais auparavant, nous n'avons utilisé des moyens d'enregistrer l'information qui étaient aussi peu enclins et aussi peu pérennes dans le temps. C'est-à-dire que plus nous progressons, plus nous avons accès à l'information, plus nous stockons l'information, et plus nous les stockons sur des supports qui sont de plus en plus fragiles. La durée de vie d'un papyrus, vous le savez, se compte en plusieurs siècles. La durée de vie d'un CD-ROM en 10 ans, la durée de vie d'un Blu-ray ou d'un DVD, c'est 3 ans. Plus on progresse, plus on emmagasine d'informations, on risque de tout perdre si on ne fait pas un effort, si on ne fait pas attention. Et quand on perdra tout, il sera trop tard. On ne pourra pas recomposer la mémoire des créateurs des jeux vidéo des années 80, des années 90. On ne pourra pas recréer la mémoire des génies de l'informatique qui ont créé les microprocesseurs, qui ont créé le transistor, qui ont créé les premiers ordinateurs de l'humanité, auxquels finalement on doit un petit peu tout. Ça ne sera pas possible. Donc il faut agir maintenant. Finalement, au sein de ce musée national, donc je mets toujours un petit accent un peu alarmiste, hein, mais parce que c'est vrai, il faut faire réagir. Au niveau de pour revenir donc au propos, ce musée national dédié au patrimoine numérique, il faut, et c'est nécessaire, qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'industrie française du jeu vidéo, de l'informatique, de par ses créations et ses créateurs. Je l'ai mis différemment ici, c'est parce qu'en fait, un musée national en France, dédié au patrimoine numérique, essentiellement quand même beaucoup lié au jeu vidéo, parce que le jeu vidéo a cet attrait fort d'être facilement accessible, et finalement, grâce au jeu vidéo, on peut apprendre énormément de choses. C'est bien pour cela qu'existe le Cirrus Gaming. Donc on aurait la chance, si on arrivait à créer en France ce fameux musée national, d'obtenir une reconnaissance mondiale et historique de l'industrie française du jeu vidéo, de par ses créations et ses créateurs. Ça, c'est très important. Autant on a du mal à parler d'informatique française. On n'a pas été des pionniers en informatique en France. On n'a pas été réellement non plus des pionniers dans le jeu vidéo. Par contre, on a une industrie florissante dans le jeu vidéo. Ubisoft est le cinquième éditeur mondial. On a différents studios à droite à gauche qui créent des petits chefs-d'œuvre. Et beaucoup de nos chères têtes blondes qui sortent d'école partent au Québec ou au Canada, ou j'en sais rien, enfin bref, faire leur métier dans le jeu vidéo, ne reste pas en France, ça, c'est un autre problème. Mais n'empêche qu'ils ont envie, tous ces jeunes créateurs en herbe, de faire du jeu vidéo. Et l'histoire de la reconnaissance de l'industrie française dans le jeu vidéo est une histoire qui remonte au début des années 80, avec des studios comme Lauriciel, comme ce qu'a donné Cryo derrière, il y a évidemment Infogrames, et j'en passe beaucoup, il y a également Callisto à Bordeaux. Tous ces studios, toutes ces créations qui ont émané de ces studios et tous les créateurs qui sont liés, j'ai cité tout à l'heure M. Frédéric Rénal, il y a également M. Éric Chahy, Philippe Ulrich, tous ces gens-là, il faut le savoir, sont vraiment des personnalités du monde du jeu vidéo et connus mondialement. C'est-à-dire même au Japon, si vous demandez à M. Miyamoto, le créateur de Mario, qui est Philippe Ulrich, qui est Frédéric Rénal, il saura vous dire qui c'est. Il a rencontré, il apprécie son travail, etc. On a une véritable reconnaissance globale et mondiale de notre industrie du jeu vidéo en France, et qui est, il faut bien le dire, totalement sous-exploité. Je ne serai pas là pour décrire quelles sont les améliorations à donner éventuellement à notre industrie. Il y a beaucoup de gens très compétents et beaucoup plus intelligents que moi qui travaillent sur les questions, mais c'est un des axes forts qui serait développé au sein de notre musée national, parce que c'est un musée national, donc on va quand même mettre en avant la création française. Eh bien, on n'aura certainement pas honte à le faire, parce que nous possédons parmi les plus grands créateurs de jeux vidéo en France. Voilà. Et puis, en créant ce musée national en France, il faut savoir que nous aurions un rôle phare à jouer sur la scène internationale. Alors, ça peut paraître très chauvin de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai pourquoi ? Parce qu'on a un statut en France qui est très particulier. Comme on n'a pas été les investigateurs de la micro-informatique domestique, on n'a pas inventé la micro-informatique, on n'a pas non plus inventé le jeu vidéo. Tout ça, c'est américain. Et finalement, on a consommé, surconsommé du jeu vidéo japonais, du jeu vidéo américain, potentiellement anglais, un peu allemand, etc. Mais ce qui pourra paraître comme une certaine pauvreté, finalement, créatrice ou industrielle, tout du moins, au moins plutôt, finalement est une chance. C'est une chance donnée à la France, parce que de ce fait, on a brassé finalement absolument tout. C'est-à-dire qu'on a importé massivement des consoles et des jeux venus du Japon. On a importé massivement des ordinateurs et des jeux vidéo et des connaissances venues des États-Unis, etc., etc. On s'est alimenté tout azimut. Et de ce fait, il faut savoir qu'en France, avant même de parler de musée, de création d'un musée national, on a bien évidemment des collectionneurs privés. J'en faisais partie, il y en a un certain dans la salle. Eh bien, il faut savoir que entre un collectionneur japonais, entre un collectionneur américain et un collectionneur français, celui qui aura la meilleure aura internationale sera le collectionneur français. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on s'intéressera à un collectionneur français, on aura accès à un large panel de connaissances qui toucheront tous les domaines. À la fois la micro-informatique, à la fois le jeu vidéo, et aussi bien le jeu vidéo américain, japonais, transcontinental, n'importe quoi. Si vous allez voir un collectionneur américain, il vous parlera d'Atari, il vous parlera de Commodore, et c'est tout. Si vous allez voir un collectionneur japonais, il ne vous parlera pas du tout, parce que sinon il se fera attaquer en procès par un éditeur encore actuel. C'est pour une de ces raisons-là, mais il y en a bien d'autres, qui fait qu'en France, nous avons la possibilité de faire rayonner réellement un institut national, un musée national dédié au patrimoine numérique, qui va permettre d'engranger toutes ces connaissances et les mettre totalement en valeur sur la scène internationale, sans frontières, sans limites, sans risquer d'être attaqué par un éditeur tiers et quoi que ce soit, sans rester dans le carcan des constructeurs ou des éditeurs purement français. On va pouvoir rayonner de manière internationale. Il y a également un autre... Encore un autre aspect qui expliquerait très bien ce rôle phare sur la scène internationale, c'est que si vous allez aux États-Unis, encore une fois, pour à peu près la même raison, vous allez aller à un musée, il existe un musée, l'ancien musée de Boston, qui a déménagé depuis, hein, je ne sais plus où il est, qui existe et donc qui parle de l'informatique, mais qui va avoir un axe singulièrement américain, américano-américain, de la déclinaison de l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. On ne vous parlera pas de Thomson, on ne vous parlera pas de Cryo, de Callisto. Les Américains, entre guillemets, excusez-moi si les Américains dans la salle, mais s'en fichent éperdument. Ils ont leur propre histoire, et qui est, comme leur histoire à eux, finalement très courte, je parle sur un point de vue civilisation, l'histoire du numérique, pour eux, est directement intégrée. C'est, on ne va pas parler de musée national dédié au patrimoine numérique aux États-Unis, ça n'a pas de sens. C'est juste un musée, ça existe déjà. Au Japon, c'est un autre problème. Au Japon, il faut savoir qu'il y a une loi qui a été votée l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'est pas, trop me tromper, qui impose aux ménages japonais, et vous allez voir que c'est très grave pour nous, pour notre sujet, qui impose aux ménages japonais de détruire leur ancien matériel. Vous pouvez imaginer que vous changez votre télé, pour la raison qui vous est votre, peu importe, vous êtes obligé par la loi de l'amener dans une décharge où elle va être détruite. Vous ne pouvez pas la conserver chez vous. C'est hors la loi. Et il y a un autre problème au Japon, c'est que, admettons que vous êtes un collectionneur privé, vous possédez des logiciels, et je vous parle donc de cas connus, de logiciels datant des années 80-90, et finalement vous êtes un peu dans le même mood que nous, MO5.com ou bien d'autres collectionneurs, ici ou ailleurs, vous avez envie d'exposer cette collection, en disant, ben voilà, moi j'ai, par exemple, toute l'histoire de Mario en jeu vidéo, je peux l'afficher quelque part dans un musée, et youpi, c'est la fête. eh bien, vous pouvez imaginer que, instantanément, ce collectionneur va se faire attaquer en justice par l'éditeur détenteur des droits, parce que, majoritairement, les éditeurs japonais ne veulent pas qu'on mette en avant ce qu'ils ont bien pu créer avant dans leur histoire, pensant, pour beaucoup d'entre eux, que ce contenu va les desservir, notamment sur les ventes actuelles. Et c'est d'autant plus vrai, je ne suis pas anti-Nintendo, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on sait qu'en 2004, Nintendo Japon a jeté à la rue, à la benne, 100 ans d'archives. Nintendo, c'est une société qui existe depuis 150 ans, c'est une société qui a créé immensément de jouets, de cartes à jouer, c'était leur première production, de consoles de jeux, de contenu. Vous ne pouvez même pas, je pense, imaginer, personne ne peut avoir une idée exacte de tout ce qui a été perdu. Et s'il n'y avait pas eu de collectionneur privé, notamment le créateur de l'histoire de Nintendo, que vous connaissez peut-être, qui est paru aux éditions Pixel 9, hein, excellent ouvrage, si je peux me permettre de leur faire de la publicité, si ces personnes-là n'avaient pas été là le jour même pour trier et sortir des bennes toute l'histoire de Nintendo, on n'aurait plus rien. Et c'est la volonté de l'éditeur même qui fait ça. Alors imaginez comme c'est grave. Et pour en revenir donc à notre statut, c'est quelque chose que l'on ne va pas vivre, que l'on ne vit pas, qu'on n'en vivra pas en France. Nous sommes quelque part une sorte d'exception culturelle qui va nous permettre, en espérant bien que ce projet de musée national va être amené à terme, et je pense qu'il le sera, j'en suis de plus en plus convaincu, voilà, nous aurons la chance de faire rayonner sur la scène internationale cet institut. Vous pouvez très bien imaginer, on a notamment accès à des collections faramineuses de logiciels japonais, puisque pour la raison que je vous ai expliqué, on ne peut pas les afficher au Japon. Ces collections vont être rapatriées en France. On peut très bien imaginer que dans 5, 10 ans, 20 ans, les plus grands créateurs de jeux vidéo japonais viendront en France consulter leurs propres archives, consulter leurs propres vieux jeux vidéo, parce qu'au Japon, il n'y aura plus rien. Et finalement, pour terminer mon plaidoyer pour le musée national, il y a donc cette nécessité pour la France, même sans s'occuper finalement du côté international, cette nécessité de se doter d'une institution nationale capable de conserver donc des collections labellisées Musée de France. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes collectionneur privé, il y en a un certain nombre en France qui ne sont pas nécessairement tous à moncerf.com, hein, nous ne sommes pas destinés à galvaniser tout le monde, chacun peut avoir son propre projet. Mais il y a un fait irrémédiable. Vous pouvez créer un musée où vous voulez. Vous pouvez du jour au lendemain poser quelques machines et vous dire, ben voilà, j'ai créé le premier musée d'informatique, j'ai créé le premier musée de jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas dit là ? Vous pouvez faire ce que vous voulez, on est en France, il n'y a pas de problème. Il n'empêche que, du jour au lendemain, vos collections, tout ce que vous aurez bien pu mettre en avant, tout ce que vous aurez remis en valeur, et finalement, c'est beaucoup plus grave dans le propos, tout ce que vous aurez pu retirer à des particuliers en leur expliquant que vous avez créé un musée, en admettant, même si ça part d'une bonne intention, tant que vous n'aurez pas le label Musée de France sur vos collections, du jour au lendemain, tout pourra disparaître. Tout pourra finir à la benne. Ce qui se passe, et ça se passe très régulièrement en France, vous connaissez, nécessairement en Marseille également, il y a des musées municipaux, il y a des musées privés, des musées de l'auto, des musées de machin, etc. Musées du bouchon de champagne, du bouchon du truc de manchette, enfin peu importe, il y a plein de musées. Et bien du jour au lendemain, certains disparaissent, et toutes leurs collections disparaissent aussi. Et c'est une catastrophe. Et c'est bien évidemment quelque chose qu'on ne veut pas chez MO5.com. Et la seule manière de donner un avenir réellement pérenne à nos collections et à tous les efforts qui sont réalisés par nos membres et par les gens, les particuliers qui nous font des dons de machines ou de logiciels, peu importe, c'est d'obtenir un jour le label Musée de France. Et le label Musée de France, bien évidemment, il n'est donné que par une institution nationale, il n'est donné potentiellement que par le ministère de la Culture. Il n'est donné que dans le cadre de la construction d'un musée national de, en l'occurrence, du patrimoine numérique. Et donc, c'est particulièrement important, c'est même essentiel, et rien ne sera jamais terminé tant qu'on n'aura jamais le label Musée de France sur nos collections. C'est impossible. Et finalement, dans un devoir d'éducation et d'alimentation, je l'ai noté ici, d'un regard critique par rapport à l'industrie contemporaine, c'est très important. Si je vous parle de la Wiimote, vous connaissez tous la Wiimote, etc. Vous me dites, wow, c'est nouveau, c'est sorti en 2006. Eh bien, je peux vous prouver que, finalement, en 86, il y avait déjà des accessoires qui faisaient la même chose. On peut parler de Kinect. Kinect, c'est génial. Kinect, c'est une caméra, on la pose, et puis on n'a plus besoin de manette, on bouge avec le corps. Eh bien, en 88, il existait un accessoire sur la NES qui faisait la même chose. Etc, etc. L'histoire n'est qu'un long recommencement. Mais dans l'histoire, notamment des jeux vidéo et de l'informatique, c'est d'autant plus vrai que si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas le matériel nécessaire à pouvoir analyser la création contemporaine, industrielle mais contemporaine, eh bien, finalement, on risque d'être leurré par des marketing, par n'importe quoi. Il faut faire particulièrement attention à ça. Par rapport à ce discours-là, je produis régulièrement des conférences sur l'histoire des jeux vidéo, qui est très longue, donc je ne vais pas, bien sûr, vous la faire maintenant. Mais je finis mes slides, il y a à peu près une centaine, par un tableau qui signifie tout. Ce tableau, il y a tous les genres de jeux vidéo qu'on connaît actuellement. Donc il y a les FPS, les RTS, les simulations, les jeux de plateforme, de plateforme, il y a tout. Et le dernier jeu en date qui correspond à un des plus récents genres de jeux vidéo qui a été créé, il date de 1993. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on n'a pas créé de nouveaux genres de jeux vidéo depuis 1993. C'est grave. Et donc, lorsque les gens voient ce slide, ils réfléchissent également du fait que si on n'avait pas gardé les informations correspondantes à ces anciens titres, on ne pourrait jamais avoir le recul et le regard critique qui s'impose pour guider l'industrie contemporaine et leur dire « Eh les cocos, vous essayez de nous vendre des barils de poudre ». Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Par rapport à ce musée, on a un projet que je vous ai brièvement explicité, donc je vais passer assez vite ce slide. Donc on propose aux institutions un projet mûrement réfléchi. Donc comme je vous ai dit, je réfléchissais de moi-même depuis à peu près 1993, ça a pris forme plus particulièrement depuis 1996 avec le premier site francophone qui était un musée virtuel de l'informatique et de l'histoire de l'informatique et du jeu vidéo, et puis avec l'association, et puis beaucoup d'autres acteurs en France, il y a d'autres associations en France, il y a Silicium, il y a la WDA pour pas les citer, il y a M. Archaeopteryx qui est avec nous, qui est également une grande des personnalités en France qui œuvre pour la préservation du patrimoine numérique. N'empêche que depuis ces années-là, nous avons, depuis tout le temps, depuis que finalement ces communautés existent, notamment grâce à l'avènement d'Internet, nous avons réfléchi communément à ce que devrait être un projet de création d'un musée national dédié à ce que nous apprécions, à ce que nous voulons préserver, donc à cette fameuse histoire de l'informatique et des jeux vidéo, à savoir le patrimoine numérique. Et donc nous avons un projet qui finalement est déjà écrit, qui est déjà que l'on peut donner du jour au lendemain, et que nous avons déjà en partie donné, aux institutions nationales pour leur dire, écoutez, et là je vous parle de vécu, en 2004, donc 40 ans d'histoire des jeux vidéo, 40 ans d'histoire d'informatique domestique, nous-mêmes nous existons depuis 1996, et puis finalement, la première fois dans notre histoire, et je pense que certains ont le vécu d'autres associations ou collectionneurs qui regardent un petit peu ce qui se fait en France, la première fois qu'on a senti un intérêt du gouvernement dans notre démarche, c'était en 2004. En 2004, le gouvernement, je ne sais plus qui exactement, on pourrait retrouver, a posé la question à la chambre du musée des arts et métiers et leur a demandé est-ce qu'il existe une histoire de l'informatique. C'est ça la question. Waouh, il y avait du chemin encore à faire. En 2006, il y a eu une première réponse donnée par le musée des arts et métiers, ou le CNAM, qui était, la réponse est oui, il existe un patrimoine informatique. Waouh. Alors, le gouvernement, dit-on. Hein. Et alors, qui en France officie pour préserver ce patrimoine numérique? Il a fallu attendre à peu près 2008-2009 pour que réellement il y ait un intérêt palpable de la part du gouvernement qui vienne vers les différentes institutions. Donc on a parlé du musée des arts et métiers, j'en ai cité quelques-unes ici. On parle donc du ministère de la Culture, on parle de la Cité des Sciences et de l'Industrie ou de l'Universcience, si vous suivez la fusion qui a été faite avec le Palais de la Découverte. Il y a la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, bien sûr, le CNC, qui s'occupait évidemment de l'histoire du cinéma. Vous voyez le parallèle cinéma-jeux vidéo, hein, qui s'appelle maintenant CNC-IA, pour intégrer des notions liées aux jeux vidéo. L'INA, Le musée Guimet, ça c'est très récent, le musée des arts et métiers, je l'ai cité, le musée des arts décoratifs, puisqu'ils disposent, eux, d'une collection également de consoles de jeux, la Gaîté Lyrique, le Computerspiel Museum de Berlin, ça c'est très récent, c'est pour l'aspect international. Enfin, en tout cas, tous ces gens-là, finalement, depuis 2009, commencent réellement à discuter, à se dire, non seulement il existe un patrimoine numérique, et il faut le préserver, et on sait qu'il y a des gens qui travaillent, à droite, à gauche, à la BNF, au CNC, à lmo5.com, pour préserver ce patrimoine-là. Donc on va essayer de réunir tous ces gens-là, et on va essayer d'extraire un jus qui va être la ligne de conduite pour la création d'un musée national. Finalement, par rapport à notre démarche, ça je suis dans le temps, ce que l'on propose également, et ça c'est de l'actualité, pour appuyer notre démarche, quoi de plus percutant? Bien évidemment, on a des sommes, des communautés de collectionneurs, de gens privés, de particuliers qui nous suivent, qui nous font des dons régulièrement, qui nous donnent certains moyens pour arriver à nos fins. Mais quoi de plus percutant finalement que d'aller chercher parmi les plus grands créateurs français, j'en ai cité tout à l'heure, voire internationaux, pour leur demander de soutenir notre initiative afin d'aller vers les politiques pour leur dire « Regardez, vous avez élu en 2007 ou 2008, en tant que chevalier de l'art des lettres, vous avez élu Monsieur Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, vous avez élu Monsieur Michel Ancel, créateur de Rayman, et vous avez élu également Monsieur Frédéric Rénal. Ben, regardez ces gens-là, ils sont avec nous. Ils ont eux aussi envie et intérêt de voir leur propre mémoire liée à leur création, notamment des jeux vidéo, préservée au sein d'un institut national dans lequel des chercheurs, des étudiants, tout le monde pourrait avoir accès ainsi à leur mémoire et comprendre quelle a été finalement leur pensée lorsqu'ils ont créé ces jeux vidéo qui sont devenus des jeux vidéo cultes et finalement même les fondements même de l'histoire des jeux vidéo. On parle de Mario, tout le monde connaît Mario, mais je pense majoritairement. Le Frédéric Rénal, c'est Alone in the Dark, c'est la mère de tous les jeux un petit peu à la Silent Hill, etc. Mais tous ces gens-là donc sont extrêmement importants et ont nécessairement une parole qui, comme je vous le disais, est une parole qui est encore lue internationalement. Lorsque Michel Ancel, créateur de Rayman, s'exprime, tout le monde l'écoute. Tous les créateurs du monde l'écoutent. Lorsque M. Miyamoto s'exprime, c'est pareil, etc., etc. Et lorsque ces gens sont avec nous pour dire le projet de M5.com et de tous les gens qui veulent créer en France un musée national, c'est nécessaire. Bougez-vous. Par rapport à ce projet-là, pour terminer mes deux petites phrases, et puis je vais lancer une vidéo qui, je pense, sera assez explicite, on a également, pour lier finalement tous les contenus qui nous sont distillés, on a accès à l'histoire de l'informatique, l'histoire des jeux vidéo, l'histoire et aux usages de tout ce qui est numérique et multimédia, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de domaines scientifiques à appréhender, et finalement dont il faut extraire un jus compréhensible par les gens du gouvernement, par les politiques, par les gens des institutions, pour qu'ils puissent eux-mêmes voter et mettre en tampon en disant « Ok, on y va ». Pour cela, on s'est doté, depuis à peu près 2006-2007, d'une équipe de scientifiques et d'experts en patrimoine, notamment numérique. Parce que en France, comme je le disais, la première question du gouvernement en 2004, c'était « Est-ce qu'il existe un patrimoine ?» Une histoire d'informatique. Et donc c'est très récent. On peut bien imaginer, et vous êtes peut-être déjà au courant, qu'il n'y a pas de corps de métier encore en France dédié au patrimoine numérique. Il n'y a pas de diplôme en enseignant en histoire d'informatique. Il n'y a pas de diplôme d'enseignant en histoire des jeux vidéo. Ça n'existe pas. Même les restaurateurs des matières premières qui composent majoritairement nos machines, par exemple, nos consoles de jeux, nos ordinateurs, donc il y a des métaux, il y a des plastiques, etc. Il n'y a pas de corps de métier de restaurateur lié à la préservation, à la restauration de ces machines-là. Ça n'existe pas. On peut trouver par adéquation des gens qui vont pouvoir restaurer les métaux. Il n'y a pas de diplôme officiel pour ça, malheureusement. Ça va venir. Mais voilà, on est en train finalement de tout défricher en France par rapport à ces questions-là. Il faut le voir comme ça. Et donc il faut tout amener, tout digérer dans un flux compréhensible et tout amener ainsi à nos institutionnels, à nos politiques pour leur expliquer mais ce que l'on veut faire, c'est pas une salle de jeu, c'est pas une espèce de salle obscure dans laquelle des geeks ou des hackers vont bidouiller des ordinateurs pour faire n'importe quoi. Non, c'est un milieu simple, c'est un milieu public dans lequel les gens vont pouvoir venir consulter des gens internet, ça me semble la moindre des choses, mais aussi tout un tas de ressources, notamment au sein d'une médiathèque, liées à l'histoire de l'informatique, des jeux vidéo et de nos usages du numérique. Tout cela, donc, est porté par une vision qui, j'espère, en tout cas, transparaîtra à travers mes dires, comme étant claire, qui est communautaire, puisque nous sommes une association, puisque nous sommes aidés par tout un tas de gens qui sont issus de différents milieux, associatifs, du fait de notre statut, portés uniquement sur les aspects patrimoniaux et éducatifs du sujet, sans intérêts commerciaux. Pourquoi je dis ça ? Je vais donc vous diffuser une petite vidéo qui est, il faut bien le voir ainsi, puisqu'on est sur la phase encore de création de ce projet d'un musée national des jeux vidéo, ou des cultures numériques, on n'a pas une vision claire qui va dire il y a une borne Mario, on va la mettre à droite, et à gauche il y aura tel jeu ou tel ordinateur. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, que c'est majoritairement dans le parcours historique d'un lieu qui devrait être dédié à tout ce patrimoine-là, qui devrait faire, au bas mot, j'espère pas trop vous choquer, à peu près entre 8000 et 10000 mètres carrés, c'est ce qui nous semble le minimum vital pour pouvoir traiter de l'ensemble du sujet et des problématiques liées, eh bien voilà, on sait juste quelles sont les pièces qui vont être présentées, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle scénographie et surtout dans quel lieu. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, ce que l'on a demandé, pour essayer d'illustrer un petit peu notre propos, on a demandé à un artiste qui travaille en numérique, qui s'appelle Yann Mine, qui est quelqu'un de très intéressant, qui donne régulièrement des conférences, notamment sur Second Life, de nous donner sa vision artistique de notre futur musée national des jeux vidéo à partir de tous les éléments que l'on avait à disposition, à savoir à peu près tout le projet scientifique que l'on veut créer. Et ça a donné, non pas l'écran en noir, mais ça a donné la vidéo qui vient. Il n'y a pas de musique, hein. Tout se passe dans le silence et la cérémonie. Je vais quand même commenter. Donc, ce que l'on voit ici, c'est un dépilement de petites sphères en fait thématiques qui vont, pour chacune d'entre elles, aborder un thème dans le jeu vidéo. Donc on va parler des FPS, du jeu de plateforme, de l'amour dans le jeu vidéo, de la guerre dans le jeu vidéo, de la violence dans le jeu vidéo, etc. etc. Et vous suivez, vous voyez que c'est un serpentin. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va remonter l'histoire des jeux vidéo pour en arriver à la création contemporaine. Le lieu central, qui est en train d'être habillé de bandes d'arcade ici, est un lieu, c'est un forum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est que tous les publics se mélangent au sein de cet espace, de cet institut national. Le public qui a connu l'histoire et le pendant de l'histoire d'informatique et du jeu vidéo, mais est celui qui ne le connaît pas. Les scolaires, les étudiants, les créateurs. Tous ces gens-là vont pouvoir se retrouver au sein de cet espace dans lequel il y aura nécessairement quelque chose qui va leur être dédié et qui va être un point de départ pour comprendre l'ensemble de l'édifice. On voit ici des alcoves historiques, salles de conférences, expositions thématiques, j'ai du mal à lire là-bas parce qu'ils sont petits, des ateliers pour des artistes contemporains, des chiptuneurs, des pixel artistes, etc. Les cycloramas historiques qui vont remettre dans le contexte, en disant ben voilà, les jeux de guerre, les jeux de plateau, etc. Au centre, des festivals, des espaces partenaires. Et puis ici, donc en filigrane, de manière très, très vite abordée, une alcove historique, par exemple ici, Nintendo, qui va être abordée. Il n'y a pas Tomb Raider, ça c'est une hérésie. Mais tout cela au sein d'un édifice central dans lequel les gens, et ça c'est très important, pourront se voir de n'importe quel étage. C'est-à-dire que les gens qui sont en haut en train de se balader vont voir ceux qui sont en bas et vont pouvoir se faire des petits coucous en disant « Viens nous voir aussi en haut, c'est très intéressant. On est arrivé au début du jeu vidéo, on est allé de Pong. » Et puis on descend, et puis on voit ainsi l'ensemble de toutes les thématiques importantes au sein d'un futur musée national. Encore une fois, j'insiste, c'est une vue d'artiste. Bien évidemment, et malheureusement, je le déplore certainement, mais le musée national ne ressemblera pas à ça. Mais il n'empêche que l'ensemble des thématiques abordées dans cette vidéo seront présentes. On pourra faire ainsi le tour complet de tout ce que représente le jeu vidéo en termes d'impact culturel sur notre société. Et il ne pourra pas en être différemment. S'il en était différemment, il n'y aurait pas de projet. Ça ne se ferait pas. L'état de l'art, donc pour terminer, il me reste 30 secondes. L'état de l'art aujourd'hui, bon, nécessairement, puisque j'ai décrit notre projet, j'ai décrit qui nous étions, j'ai décrit quels étaient les acteurs intéressés à ce projet-là, et finalement, en début 2011, où en sommes-nous ? Nous avons eu, notamment en 2010, vraiment une cheville particulièrement importante dans notre histoire, qui a été, lors de la journée du 26 avril 2010, un discours de M. le ministre de la Culture, qui avait donné un discours en faveur du jeu vidéo, de sa création, de la création contemporaine, de l'industrie actuelle, notamment en visitant les studios Ankama vers Lille, et surtout avait, ça c'est ce qui nous touchait bien évidemment directement, avait parlé de la nécessité de préserver également cette industrie, ce patrimoine-là. Et en associant directement au mot préservation, en associant différents acteurs dont je vous ai parlé, le ministère de la Culture, le CNC, la BNF, etc., et le travail de l'association Amos.com. Pour nous, c'était quelque part déjà, c'était déjà nous offrir une réelle légitimité, nous offrir quelque part une fleur en nous disant « Nous avons enfin et finalement reconnu tous vos efforts pour tout le travail que vous avez accompli en termes de préservation du patrimoine numérique. Et à maintenant, je vous cite, moi, ministre de la Culture, au même statut que les instituts nationales telles que la BNF, le CNC, etc. » C'était pour nous vraiment très, très important. Finalement, actuellement, par rapport à ce projet de création d'un musée national des jeux vidéo, il y a l'appui direct de la majorité des institutions nationales qui comptent dans le domaine, j'en ai cité déjà beaucoup, ministère de la Culture, CNC, BNF, d'acteurs privés tels que Dailymotion, certainement dans les jours qui suivent, vous allez voir sur Dailymotion qui est notre YouTube français, hein, c'est un grand, grand diffuseur de vidéos, vous avez parlé tout à l'heure, de vidéos sur Internet qui sont très prisées, et bien Dailymotion va mettre en ligne un espèce de musée virtuel de l'histoire de l'informatique avec des fiches par machine, des vidéos de tests, etc. Et c'est avec Amos.com qu'ils ont travaillé pour que ce travail puisse être réalisé. Et donc nous aurons une vitrine continuelle, très bien mise en avant, sur Dailymotion. Ubisoft, c'est un éditeur, il y en a tant d'autres, mais Ubisoft est français, donc c'est particulièrement important lorsqu'un éditeur français vient nous voir, nous, association, et nous disent « Nous sommes des industriels, nous avons donc une étiquette forcément marketing, mais malgré tout, nous avons une histoire. » Moi-même, le PDG d'Ubisoft, eh bien, ça fait 20 ans, 25 ans que je travaille dans le domaine. Je connais, je sais l'importance de vos travaux pour la préservation du patrimoine numérique. Et donc, nous allons vous mécéner. Et il y a eu donc une exposition en décembre 2010 d'Ubisoft sur le thème de Assassin's Creed et qui était finalement du mécénat pour Amos.com, purement et simplement. Ce qui va nous permettre d'acheter de nouvelles machines, de nouvelles collections, du mobilier pour nos collections, etc. Et puis on peut parler de Sega France, Nintendo, et de beaucoup d'autres acteurs qui commencent réellement à nous entourer et à nous offrir leur aide et leur reconnaissance. Ce qui est pour nous primordial et nécessaire pour nous guider et nous dire que finalement nous avions raison. Et que notre propos de créer un musée national, il est bien là et il est supporté par tout le monde, aussi bien au niveau institutionnel que privé. Finalement, on a, et ça c'est très récent, l'appui notamment du SEL, donc le syndicat des éditeurs de Bruxelles Loisirs, qui également a compris notre démarche, et bien évidemment, en termes d'image, il n'y a rien de plus marketing, en termes d'image, dans la communauté des gamers, que l'image du SEL. Ce sont eux qui distribuent, pour la majorité des éditeurs mondiaux, les jeux vidéo contemporains. Et malgré tout, ils comprennent, ils savent, ils sont persuadés que ce projet-là doit être mené à terme. Ils travaillent main dans la main, il faut le savoir, avec le ministre de la Culture là-dessus. Ils font appui sur les éditeurs qui sont sous la bannière du SEL pour accompagner Amos.com pour la création de ce projet-là. Et puis, je le redis une nouvelle fois parce que c'est quand même très important et nous le mettons en valeur régulièrement, il y a cette fameuse adhésion à notre projet des plus grands créateurs français ou internationaux de jeux vidéo. C'est un travail qui va se poursuivre tout le long de l'année 2011. Je vous ai annoncé, et j'espère ne pas me tromper, l'adhésion de M. Kojima. C'est quelque chose qui va se faire tout naturellement. Il y aura bien d'autres, M. Jeff Minter, M. Wozniak, Steve Wozniak, etc., etc. Tous ces gens-là vont être sollicités pour au moins signer et apporter à notre projet une part de légitimité supplémentaire en disant si ces gens-là, si importants dans le paysage audiovisuel, multimédia ou du jeu vidéo dans le monde signe ce pacte de création d'un musée avec nous, c'est que nécessairement, ils ont certainement raison et que la majorité des gens doivent venir avec nous. Vous avez peut-être des questions, je ne sais pas si on a encore 30 secondes.
Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir un médecin ?
La meilleure manière, alors, c'est ce qui est important et peut-être qu'il transparaît, j'espère, à travers mes dires, c'est pas tant soutenir MOSCENT.com, c'est soutenir ce projet de création d'un musée national. Mais la meilleure manière, c'est ça qui est intéressant et malgré tout qui me fait rebondir sur l'association, fort heureusement, c'est que la meilleure manière d'y arriver, au milieu de toutes les institutions, on ne va pas adhérer au ministère de la Culture, on ne va pas adhérer à la BNF, par contre, on peut adhérer à MOSCENT.com. Donc en devenant membre de MOSCENT.com, vous devenez membre actif, même si vous ne participez pas nécessairement à nos expositions ou que sais-je. En tout cas, vous êtes inscrit, vous travaillez, vous allez devenir membre actif de ce projet de création d'un musée national. Et plus nous serons nombreux, notamment appuyés par les plus grands créateurs de jeux vidéo dans le monde, plus nous aurons de chances de faire avancer le projet de plus en plus vite. Et donc effectivement, si vous aimez ce projet-là, si vous le trouvez nécessaire, il faut devenir membre de MOSCENT.com. C'est la meilleure manière d'y arriver.
Moi, je suis collectionneur depuis une quinzaine d'années. J'ai des machines que je pense relativement rares. C'est l'investissement financier. Mmh. Surtout de nos jours où il y a malheureusement...
Une plus-value énorme.
Voilà. Oui, mais il y a une quinzaine d'années, c'était relativement abordable. Mmh. Moi, l'idée est séduisante. Après, j'avoue que j'en connais plein qui sont privés un peu à gauche, à droite, qui ont des collections magnifiques, qui n'ont pas envie forcément de donner comme ça, but en blanc. Est-ce qu'il y a des solutions pour ce genre de choses, des prêts momentanés, si le musée y a ?
Oui, tout à fait. Il y a... j'emploie une image, je ne vais pas la sortir longtemps, elle ne vous plaira pas, mais effectivement, il y a au moins deux actes, deux volontés qu'on retrouve très récurrentement auprès des collectionneurs privés. C'est soit je collectionne pour tout donner à un grand projet, le musée national, en disant ça ne me sert à rien de le garder pour moi. Dès qu'on aura quelque chose de pérenne, de construit, hop, je mets tout dedans. Et puis, si on est plusieurs à le faire, on va immédiatement se doter d'une immense collection, d'un immense savoir. Et c'est ça qui permettra de construire le musée national. Ça a été de ma démarche comme personnelle, immédiatement. Après, il y a d'autres collectionneurs qui... parce qu'ils apprécient plus particulièrement certaines branches de matériel, parce qu'ils ont investi peut-être comme vous d'immenses sommes, et donc ne sont pas prêts à donner immédiatement ce matériel-là, ou en tout cas pas tout, ou en partie. Oui, effectivement, on a l'habitude de travailler avec des collectionneurs privés, même au sein de MOSCENT.com, il ne faut pas croire que tous les collectionneurs, et on est quand même 200 et quelques, ont donné toute leur collection à MOSCENT.com, absolument pas. Ils ont chacun leur collection. On a, par exemple, un expert de Commodore, un expert de la NES, enfin, j'en sais rien. Et ces gens-là, effectivement, lors d'expositions, lors de projets, qui peuvent être pleinement le cadre du projet principal du Musée National, nous savons, et nous avons déjà discuté avec eux, que nous pouvons aller vers eux pour leur demander le temps qu'il faudra, voilà, des pièces, parce que à l'association, on ne dispose pas de tout, même si on a 30 000 pièces, on n'a pas toutes les consoles Nintendo, j'en sais rien. Mais voilà, oui, on a l'habitude de travailler ainsi.
Parce que moi, j'ai des protos de consoles, des choses comme ça, qui demandent un traitement particulier, une conservation particulière. J'avoue, la première fois que j'en ai eu, j'ai allumé, j'ai vu ça marcher, j'ai éteint, j'ai plus touché. Parce que j'ai trop peur qu'effectivement, il se passe quelque chose.
Yes. Et moi, ce que je vous dirais en essence, c'est justement par rapport à ce que vous dire, le plus important... C'est pas que vous donniez votre collection.
Non, mais
c'est par contre.
Oui,
bien sûr.
Par
contre, si je puis me permettre, c'est que vous donniez accès aux informations que vous détenez sur votre collection. Ouais. C'est-à-dire ce que vous venez de dire sur la préservation de matériel Nintendo, c'est super important que l'ensemble des collectionneurs y ait accès. Ou Atari, enfin voilà. Ça, c'est le plus important. Il faut savoir que MOSCENT.com, c'est un projet, une association, etc. C'est également un portail pour les collectionneurs. Et nous avons mis un point d'honneur. Je vous disais tout à l'heure qu'on défriche finalement tout ce qui est lié à la restauration, à la préservation de ces vieilles machines ou des logiciels, des disquettes, etc. Toute cette information-là doit être distillée au maximum sur Internet afin que les collectionneurs privés, continueront d'exister, bien évidemment, puissent au moins préserver dans l'état de l'art, leur collection privée pour qu'elle puisse continuer d'exister. Ça, c'est le plus important.
Parce que justement, je trouvais dommage, moi, c'est pour ça que j'avais un peu quitté toute cette scène-là, que je trouvais qu'il y avait trop de trucs de tous les côtés. Mmh. J'ai dit au final, je vais faire ça dans mon coin parce que.
Yes.
Il y a eu justement tout le monde qui spéculait à dire,
Bah déjà, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres collectionneurs sur Marseille, etc. Moi, je vous incite beaucoup, ou quasiment tous, à vous réunir au sein d'une ou plusieurs associations et voilà, de faire rayonner hypothétiquement la région du sud, entre Nice, Marseille, etc., Montpellier, parce que j'ai aussi beaucoup de contacts, pour faire du buzz autour, voilà, de cette nécessité de préserver le patrimoine numérique, créer des expositions, mettre en valeur vos collections personnelles au sein d'espaces tels que celui de marque, etc., etc. Donc c'est, voilà, il faut être acteur actif et surtout partager au maximum l'information. Je sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vous donnerai la parole.
Juste un truc. Tout à l'heure, tu parlais du Japon qui détruisait son passé, mais je crois que c'est, qu'au Japon, il n'y a pas cette notion de patrimonial. Ils sont tout le temps en train de reconstruire les temples, etc. Je veux dire, c'est pas tant que les compagnies détruisent qu'il y a une tradition. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette notion de patrimonial qu'on peut l'avoir en France.
Non, c'est pas la même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que
culture.
Ouais, ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré tout, par rapport au Japon, j'ai beaucoup parlé du ministre de notre ministre de la Culture. Il faut savoir que le ministre de la Culture japonais s'intéresse au même projet que nous. Et donc, un ami qui est membre de l'association et qu'il a rencontré sur le sol japonais, puisqu'il vit là-bas, a abordé toutes ces notions, toute cette problématique de l'obsolescence et de disparition de tout le patrimoine japonais numérique avec le pendant de notre ministre de la Culture, mais au Japon. Et du coup, notre cher ministre de la Culture a rencontré le ministre de la Culture japonais et ils ont tous les deux discuté de nos projets communs. Donc ça pourrait donner des petits et reprendre en partie ce que je vous disais avec la possibilité, parce que c'est pas le ministre de la Culture japonais qui va réécrire l'ensemble des lois de son archipel, mais n'empêche qu'en France, comme on a la possibilité certainement de créer un musée national, voilà encore une fois la possibilité de faire rayonner d'une manière internationale et d'avoir des concepteurs et des créateurs japonais qui viendront nous voir pour consulter leurs propres œuvres. Je ne vous disais pas du tout ça au hasard tout à l'heure. Voilà. Un petit cœur. Oui, peut-être une dernière question.
Si vous voyez les gens du ministère de la Culture, si vous pouvez souffler à leurs collègues de l'Éducation nationale qui enfin reconnaissent l'informatique comme une matière.
Ah là là. Tout un débat, mais. Ils ont essayé en 84, hein, mais.
Bon, mais il y a des choses qui se font.
L'informatique est un outil et non pas une matière. Je pense qu'il n'y a pas de preuve d'informatique.
Donc, deux rentrées.
Moi, je vous promets que ça va changer. Moi, je vous dis, ça va changer. Il y a de plus en plus de professeurs d'histoire des jeux vidéo dans plus en plus d'écoles ou de formations liées aux jeux vidéo dans les écoles d'ingénieurs, d'art appliqué, etc. Et moi, je peux vous dire que bientôt, ces gens-là, ils vont reprendre leur casquette, ils vont les mâcher. Parce qu'on aura bientôt des véritables professeurs d'histoire des jeux vidéo en France, on aura des véritables profs d'histoire de l'informatique, et on aura tous ces corps de métiers sont en une essence. Ça existe déjà. Si on en cherche, on en trouve. Oui, par contre, ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas encore de diplôme.
C'est la science du numérique au programme de première et terminale pendant deux rentrées.
Oui, mais il n'y a pas de prof d'informatique, ça n'existe pas.
Pas encore.
Le statut n'existe pas.
C'est vrai. Pas encore. Le statut n'existe pas. Mais ça changera.
Je demande aux profs de maths, de physique.
Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci.